Alors, merci à tous, merci pour l'invitation, merci au Rav, merci à Alexandre. Vous avez entendu, il y a une lourde responsabilité qui pèse sur mes épaules. Et donc, je suis à la fois intimidé, et puis quand Alexandre m'a demandé de venir faire la première, donc parler ici à la première séance, ce que je lui ai proposé, la chose qui m'est venue spontanément à l'esprit, c'est d'essayer de faire le lien entre précisément persévérance et la thèse qui était défendue dans ce livre et le dernier livre qui s'appelle L'état de l'exil qui se trouve ici. Parce que, bien entendu, ce livre est, est un produit dérivé de persévérance, mais bien entendu, ce n'est pas écrit ainsi dans le livre et ne peuvent vraiment le percevoir ceux qui ont lu Persévérance. Et donc, ce que je vais tenter de faire en peu de mots, et donc je vais être schématique, je vais faire des raccourcis, et on va perdre des détails importants et on va perdre un peu la complexité des choses, mais je sacrifie le détail et la complexité pour mieux faire ressortir la ligne principale, disons, la note principale qui permet de relier les deux livres et donc qui permet de peut-être de reprendre un tout petit peu la thèse qui est défendue, dans la thèse générale, disons, et la perspective qui me guide. Alors, bon, peut-être que Alexandre me le dira, mais je pense que ce qui a plu dans l'ouvrage Persévérance, c'est que c'est un regard à la fois intérieur et extérieur qui tente de se nouer dans le livre. Donc, extérieur, le monde extérieur au monde juif, en tous les cas à la tradition juive, et l'intérieur du monde juif. Le terme est un peu vague, mais disons l'intérieur du monde de la tradition et à l'université, on ne peut pas faire autrement. On est tous sur les pas de Léopold Zuntz, qui le tout premier en 1817, dans son petit livre qui s'appelle « Etwas über die rabbinische Literatur », publié en 1817, prend à bras-le-corps le matériau traditionnel pour plonger à l'intérieur en le regardant de l'extérieur, donc armé d'un savoir philologique essentiellement, c'est l'Allemagne du début du XIXe siècle, mais disons philologico-historique. Et c'est lui le premier qui va inviter tout le monde à regarder les Juifs, disons, comme un peuple, dans le sens le plus ordinaire du terme, plutôt un Kulturvolk, un peuple culturel, avec sa propre créativité, sa propre productivité, à une époque d'émancipation. Et donc, toute l'opération de Zuntz consistait à permettre aux Juifs d'Allemagne de récupérer quelque chose d'une tradition dont le regard extérieur est en train de faire perdre. Hein? C'est ça le mouvement de l'émancipation. Et donc, si on regarde son livre de près, on voit qu'il y a aussi un peu, il rentre à l'intérieur du monde de la tradition, mais il y a une espèce de mélancolie chez Zuntz. La tradition est devenue en quelque sorte un objet, donc un patrimoine, donc quelque chose qui n'a plus la vivacité de ceux qui vivent de l'intérieur, qui vivent la tradition de l'intérieur. Scholem m'avait résumé en disant que la Wissenschaft des Judentums, c'est-à-dire l'étude du judaïsme à l'université, l'étude moderne, était en quelque sorte un enterrement de luxe du judaïsme. Et donc, pourquoi je vous dis ça? parce que toute cette littérature de la Wissenschaft était en quelque sorte apologétique. Elle était liée à l'émancipation. Elle avait pour motif de montrer à la fois aux jeunes générations en voie d'émancipation et à l'extérieur surtout, de montrer, disons, la valeur du judaïsme. Mais ce qui se perdait là, naturellement, c'était, disons, les effets de la mise à distance, de l'objectivation, et donc la vie elle-même de la tradition. Ce que, je ne suis pas le premier, naturellement, et après il y a eu un certain nombre de tentatives de cet ordre, de regarder la tradition de l'intérieur, mais dans son actualité continuée, et non pas comme un objet qui s'est en quelque sorte évanoui dans un passé qu'il s'agit éventuellement de patrimonialiser, mais qui s'est perdu en quelque sorte ou effacé ou en tous les cas amenuisé en étant relégué dans le passé. Et donc reprendre, qui était le projet de Tzoutz aussi, les Juifs comme un collectif qui a une trajectoire, qui a sa trajectoire propre. Deuxième point. Si donc il s'agit d'un peuple, d'une nation, les termes n'importent pas tellement à ce stade, il s'agit d'un phénomène donc politique. Et toute la question qui se pose, c'est comment décrire ce phénomène politique dans sa dynamique interne, dans sa propre dynamique, non pas dans son lien avec l'extérieur, mais dans sa propre dynamique. Alors, le trait distinctif, du peuple est probablement une condition particulière qu'on appelle exil. Et l'exil, on peut le dire de deux manières, c'est soit une exception, il n'y a pas d'autre peuple en exil dans le sens de galoute, et on peut dire aussi que c'est une anomalie, et c'est important de le regarder des deux côtés. L'exception, on le regarde à l'intérieur comme une exception et on le regarde à l'extérieur comme une anomalie. Et donc, l'exil est une forme politique, qui est singulière. Simplement, elle est une forme politique qui a un soubassement tacite et qui n'est jamais véritablement complètement explicité ou complètement déployé. Il n'y a pas de traité politique chez les Juifs. J'ai suffisamment souligné cette curiosité dans le livre Persévérance. Alors, qu'est-ce que c'est la politique juive? Alors, ce que je propose, c'est de dire que c'est une politique qui a deux faces. Il y a la politique de l'exil, c'est-à-dire la politique menée en exil, la politique effectivement menée en exil, pour durer en exil, pour y persévérer, et il y a une politique de sortie de l'exil. Donc c'est une politique qui consiste à vouloir mettre fin à l'Église, à l'exil, pardon. Généralement, tout le monde sait, cette politique-là est associée à ce qu'on appelle le messianisme. En tous les cas, elle n'a de sens que dans l'horizon du messianisme. Et ce ne sont pas deux politiques contradictoires. Je me souviens de la discussion qu'on avait eue quand Persévérance était parue. Tout le monde, quelqu'un avait dit « Ah oui, mais ce n'est pas simplement l'accommodement avec l'extérieur qui compte, c'est aussi... » bien entendu que c'est une dialectique entre les deux. Politique de l'exil, politique de sortie de l'exil. Et les deux, non, pas la même temporalité, les deux ne s'agencent pas de manière simple. Prochain point, je pense que, j'expliquerai un peu plus tard pourquoi, cette politique juive est arrivée, disons, avec d'abord la Shoah, et puis avec la création de l'État d'Israël, dans une crise généralisée. C'est-à-dire, on ne peut pas penser aujourd'hui la question de la politique juive si on ne prend pas conscience qu'on est dans une situation de crise. Et je pense que cette crise, on ne dispose pas de ressources de l'intérieur de la tradition pour tenter de la maîtriser. On n'a pas les ressources de l'intérieur de la tradition pour la maîtriser, ce qui provoque une désorientation générale. Donc, comment caractériser notre époque? C'est une époque, on pourrait dire, post-Shoah, et une période qui est presque simultanément post-étatique. C'est-à-dire, il existe un État juif. Il y a eu la Shoah, et il existe un État juif. Alors, pourquoi ça nous désoriente complètement? Ça nous désoriente complètement parce que la politique en exil, c'était la thèse de l'ouvrage Persévérance, elle repose sur la promesse que le peuple ne sera pas détruit. D'où la crise généralisée, c'est aussi simple que ça. On pourra revenir après sur les interprétations de l'intérieur du monde de la tradition de la destruction des Juifs pendant la Shoah. Ça a tous les traits d'une crise. Il n'y a pas de position unilatérale. Les discussions, c'est très, très divisé. Mais si j'ai le temps d'en dire un mot, je pense que ça a généré une crise de laquelle on n'est pas sorti jusqu'aujourd'hui. Il n'est pas sûr qu'on puisse en sortir. Et la deuxième facette de cette crise, elle tient à la naissance de l'État d'Israël. Et là, c'est aussi une crise, mais qui touche au versant de la politique de sortie de l'exil. C'est une crise qui touche à l'autre politique qui est celle qui est la politique, on pourrait dire, de l'attente de la libération, la politique messianique ou de l'attente de la restauration. Alors, prochain point. Je voudrais partir d'une question que pose Yitzhak Ber, l'historien qui écrit en 1936 un ouvrage qui s'appelle Galout, l'imaginaire de l'exil dans le judaïsme. Yitzhak Ber, c'est Fritz Ber, c'est un historien allemand qui migre, je pense, en 1931 ou en 1932 en Palestine et qui écrit un texte qui s'appelle Galout. Et dans ce texte, de manière, disons, plutôt discrète, il ne met pas trop l'accent sur cela. Il fait la remarque suivante. C'est une remarque d'historien. Hein. C'est un historien, c'est un médiéviste, Yitzhak Ber, un historien des Juifs de la péninsule ibérique. Il dit la chose suivante. Le peuple juif quitta les rangs des nations combattantes et remit entièrement son destin entre les mains de Dieu. Fait historique, unique, auquel aucun historien, jusqu'à présent, n'a accordé l'importance qui lui revient. Alors, cette phrase m'a énormément frappé parce que, effectivement, le peuple juif quitta les rangs des nations combattantes. Donc, il quitte les nations, quitta le rang des nations combattantes. On a déjà probablement une partie de la définition même de la condition politique de l'exil, d'avoir quitté le rang des nations combattantes, et remis entièrement son destin entre les mains de Dieu. Donc, en réalité, il n'y a plus de politique, ni d'aucune sorte, ni de gouvernement, ni de possibilité de faire la guerre. Il remit son destin, Geschick, dit-il en allemand, entre les mains de Dieu. C'est un fait historique unique, donc ça ne s'est passé pour aucun autre peuple que pour les Juifs, auquel aucun historien n'a donné l'importance qui lui revient. Alors il écrit en 36. Est-ce qu'aujourd'hui les historiens ont donné à ce fait unique l'importance qui lui revient? Mon sentiment est que non. On a beau chercher dans la littérature, ce sujet n'a pas vraiment été pris complètement à bras le corps. Quand est-ce que les Juifs ont quitté les rangs des nations combattantes? Alors, pour vous donner, parce que quand même on est dans un Bet Midrash, on va très rapidement, de manière succincte, regarder, lire ensemble un petit passage du traité Yoma 9b, qui rapporte pourquoi le premier temple a été détruit. À cause de trois choses: l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, le crime de sang. Pourquoi le second temple a été détruit alors qu'à cette époque, le peuple observait la Torah, les commandements, l'équité? Et la réponse, tout le monde la connaît, c'est un passage très célèbre du traité. Et la réponse, c'est parce que régnait une haine sans fondement. Sinat Rinam, tout le monde connaît cette expression, parce que régnait une haine sans fondement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, haine sans fondement? Alors, la tradition rapporte cette phrase. Un récit qui figure dans le traité Gittin, donc 55b, 56a, récit d'ailleurs qu'on trouve sous une forme assez différente dans Lamentation Rabba au folio 4. Alors, je vous lis le passage. À cause de cela, le temple a été détruit, pose le Midrash, avant de relater l'histoire donc d'un hôte qui donne un festin, demande à son serviteur d'y inviter son ami dénommé Kamsa, alors que le serviteur se trompe en conviant l'ennemi de l'hôte, un dénommé Bar Kamsa. C'est l'histoire qui est racontée. Et donc l'invitant intime Bar Kamsa, qui est convié par erreur de quitter le festin, mais l'intrus tient absolument à rester, il propose même de payer l'ensemble du festin, de couvrir donc tous les frais du festin, et ça lui est refusé, et donc il est expulsé. Et, dit le récit, les rabbins assistent à la scène et demeurent silencieux. Alors Bar Kamsa, qui a été expulsé, veut se venger. Il veut se venger de l'affront, raconte le Midrash, et il se rend auprès de César. Donc, vous avez déjà le cadre politique dans lequel se déroule le récit. Donc il se tourne vers César, pourquoi? Parce que César occupe la Judée. C'est le roi qui occupe la Judée. Et il lui dit que les Juifs se rebellent contre lui. Et il lui donne pour preuve le fait que les Juifs n'acceptent pas ses sacrifices ou ses offrandes, ou les offrandes qui sont faites en son nom au temple. Or, tout le monde sait que César peut très bien proposer des offrandes au temple. Alexandre le Grand l'a fait. Et donc, il s'agit d'un mensonge. Et sous le conseil de Bar Kamsa, qui continue son, pour se venger, il conseille à César d'envoyer donc une bête pour sacrifice, et secrètement, il la pose une petite incise, une petite blessure sur la lèvre supérieure de la bête. Et quand l'animal est proposé au sacrifice, il est refusé. Et donc se pose la question, ce qu'il faut faire. Alors, l'animal est donc impur, il ne peut pas être sacrifié au temple, et donc il va falloir refuser à César le sacrifice. Problème. Alors, les rabbins dirent, rapporte le Midrash, qu'il faut sacrifier la bête bien qu'elle est impropre. Il faut quand même le faire. On leur a objecté qu'il n'est pas possible de sacrifier une bête impropre. Ça pourrait donner l'impression qu'en réalité, cette règle n'a pas d'importance. La raison qui est invoquée pour enfreindre éventuellement la règle, l'expression c'est Mishum Shlom Malchut, en vue de la paix avec le royaume. Alors, une autre proposition est soulevée et qui consiste tout simplement à tuer Bar Kamsa pour qu'il n'ait pas le temps de rapporter la nouvelle à César et donc de l'éliminer avant que la nouvelle n'arrive à César. Et là aussi, on lui objecte qu'en aucun cas la peine de mort n'est prévue dans pareil cas. Et donc, la proposition est rejetée. Et le récit se clôt sur cette affirmation, qui est dans la bouche de Rabbi Yochanan, à cause. Alors, il y a une discussion sur le sens du terme, à cause d'un trop grand scrupule. Notre temple a été détruit, brûlé, et nous-mêmes exilés de notre terre. Alors, que veut dire ce midrash ou qu'est-ce qui est raconté dans ce midrash? Ce qui est raconté dans le midrash, c'est que il y a eu une mauvaise régulation entre l'autorité qui vaut pour les Juifs, qui est l'autorité, les règles que lui ont édictées son roi, qui est Dieu, et la relation avec le roi impérial, donc ici en l'occurrence avec César. Ce qui est suggéré, et plus que suggéré, dans ce midrash, c'est que il est impératif de bien réguler sa relation avec Rome, sinon les Juifs subiront la guerre d'ailleurs qu'ils vont perdre, puisque le temple a été détruit, la guerre a été perdue et les Juifs ont été exilés. Voilà, je pense, le lieu dans lequel il est indiqué quand les Juifs quittèrent les rangs des nations combattantes. Ce qui se dégage, c'était aussi l'intention du livre Persévérance, ce qui se dégage ici, c'est ce qu'on peut appeler une diplomatique. À la guerre, à la possibilité de la guerre, se substitue la diplomatie, Donc, ici, vous voyez dans le récit la restauration, pourrait-on dire, de la vérité. La vérité étant que César peut parfaitement sacrifier une bête. Je vous donne un autre exemple, et il y en a énormément. Donc je peux, un second exemple qui est très, très frappant, Midrash Lamentation Rabba 1.16, le commentaire donc, de Lamentation 1.16 raconte cette petite anecdote, cette petite histoire. La femme de l'empereur Trajan, que ses os soient broyés, donna naissance à un enfant la nuit du 9 du mois de Av. Donc, vous savez, la date de la destruction du temple. Pendant que tous les Juifs étaient en lamentation, l'enfant mourut à Hanouka, jour de célébration. Donc, c'est le jour de Hanouka, vous savez tous. Les Juifs dirent, nous allons allumer les bougies de Hanouka ou pas. Ils décidèrent de le faire et de risquer d'en subir les conséquences. Quelqu'un, on ne sait pas qui, les dénonça auprès de la femme de Trajan, disant, donc la femme de Trajan dit à Trajan, dit au César, « Quand ton enfant est né, les Juifs se lamentaient, et quand il est mort, ils allumèrent les bougies. » Donc, elle écrivait une lettre à son époux, « Plutôt que de soumettre les barbares, viens soumettre les Juifs qui se sont rebellés contre toi. » Tout converge autour de la nécessité de réguler la relation avec le roi impérial. Éviter la guerre en rectifiant la vérité. Vous voyez que le problème vient toujours de la calomnie. Bon, je laisse la question de la calomnie de côté. Je l'extrais d'un texte que je prépare sur le problème de la calomnie, mais ce n'est pas notre objet à présent. Donc, le problème qui se pose, c'est la régulation entre deux autorités, ou entre deux rois. Et cette position donc, qui induit la sortie de la guerre, c'est la période post-destruction du Second Temple. Hein, ce qu'on appelle l'exil des Dômes. Et pourquoi ? Mishum Shlom Yisrael. Donc, impérieuse nécessité de sortir de la guerre, qui est absolument travaillée, je viens de vous le montrer de manière très explicite, dans la tradition. Alors, pour avancer plus vite, je vais passer sur les commentaires qui concernent Jacob et la question de la guerre, qui sont aussi des sources très importantes sur la manière de sortir de la guerre. Vous savez que Jacob défère devant son frère, essaye à tout prix d'éviter la guerre avec son frère. Et les commentaires disent qu'il a toutes sortes de moyens, qu'il met en œuvre tout un ensemble de moyens pour le faire, toutes sortes de tactiques. Et une des tactiques, c'est, il le sait plus fort, vous savez qu'Esav, c'est Edom, donc c'est Rome, il se prosterne devant son frère, il appelle mon maître, Adoni. Il se présente lui-même comme son esclave. Ce sont des tactiques d'esquive de la guerre. Hein, vous vous souvenez, Jacob divise son camp en deux. Ce sont des tactiques. Des commentaires, surtout au Moyen-Âge, insistent sur le fait qu'il va essayer de soudoyer son frère. Donc, ce sont toutes sortes de manières de ne pas entrer dans la confrontation directe et d'éliminer, surtout dans les commentaires tardifs, rabbiniques tardifs, surtout dans les commentaires médiévaux, de insister sur l'impérieuse nécessité d'éviter la confrontation et donc de trouver un terrain d'entente, un compromis avec le plus puissant, c'est-à-dire avec l'Empire. Alors, maintenant, reprenons forme politique de l'exil. Il y a comme une espèce de prémisse pour essayer de saisir quelle est cette forme politique. La prémisse, c'est l'alliance brite. Peut-être les meilleures pages que j'ai lues, que j'ai trouvées sur l'alliance, de nouveau dans une perspective extérieure-intérieure, c'est l'ouvrage de Martin Buber, avant qu'il n'écrive d'autres choses beaucoup moins intéressantes, La monarchie de Dieu. Dans La monarchie de Dieu, il décrit parfaitement et de manière très bien sourcée, à la fois dans les livres bibliques, mais aussi dans la littérature rabbinique, l'alliance qu'il appelle alliance royale. Alliance royale. Qu'est-ce que c'est l'alliance royale? L'alliance royale, c'est l'alliance qu'il y a entre Dieu et son peuple, et le peuple avec son Dieu. Donc c'est un rapport réciproque. Qu'est-ce qui est échangé dans cette alliance? Ce qui est échangé, et c'est pour ça qu'elle est royale, c'est la promesse au peuple d'être protégé et prospère, et le peuple de n'avoir sa fidélité. Hein, la fidélité comme on doit la fidélité à son roi. Ça, c'est la forme alliance. Alors, il n'empêche qu'avec cette... avec l'alliance... Donc, vous avez Dieu et Israël... échange de promesses. Elle est bien entendu asymétrique. Je ne rentre pas dans les détails de la manière dont cette alliance royale fonctionne. Ce qui importe ici de souligner, c'est que elle est surtout asymétrique dans le sens où elle est à l'initiative de Dieu. C'est une initiative de Dieu. Alors comment se fait cette alliance? Elle se fait par l'élection, c'est-à-dire Dieu choisit. Et donc on a l'impression qu'on est dans une structure duale. Dieu choisit son peuple et on a fixé en quelque sorte le cadre. Mais naturellement, si Dieu choisit, ça veut dire que Dieu exclut. S'il choisit, il exclut. Et donc, en réalité, ce n'est pas une relation duale, c'est une relation triangulaire. Il y a Dieu, Israël, les nations. Donc, voilà la prémisse. Et donc, il s'ensuit un paradoxe. Le paradoxe est le suivant. Dieu choisit son peuple, il le distingue de toutes les autres nations. Et donc, on a le sentiment que, politiquement, ça veut dire que les Juifs vont être isolés. Donc, d'un côté, on se dit, Israël est le collectif le plus isolé et donc aussi le plus autonome. Mais en fait, vous souvenez-vous du récit Kamsa par Kamsa? En réalité, on est dans une situation qui est triangulaire. Et du coup, la proposition selon laquelle Israël est le plus isolé et le plus autonome se renverse. Et on peut dire que Israël, politiquement, est le peuple le plus relationnel. En fait, il est en relation, à travers l'élection, avec toutes les nations. Donc, il n'est pas le plus isolé. Il est celui qui, d'emblée, avec l'élection, est en relation avec toutes les nations. Cela, c'est quelque chose qui vaut dans la situation pré-exilique. L'alliance royale est une construction qui n'a pas l'exil pour condition. Alors, redéfinissons de que se passe-t-il dans cette relation triangulaire. Quand il y a exil, c'est-à-dire quand il y a dispersion parmi les nations et dans les nations. Il y a toujours le double mouvement. Parmi les nations, dans les nations. Dans cette situation-là, parmi les nations, c'est-à-dire dans chaque, ils sont parmi toutes les nations et à l'intérieur de chaque nation. Dans cette situation particulière, le triangle prend cette signification qui est celle que j'ai essayé de décrire dans Persévérance. Les Juifs, parce que l'alliance est le seul mode de relation politique qu'ils connaissent, puisqu'ils l'héritent de l'alliance royale, comme l'a montré Buber, vont contracter une alliance avec César et avec tous les substituts qui vont se succéder du César, c'est-à-dire avec le roi territorial. Comment ils vont le faire? Donc, les Juifs. Ici, ils sont dans les nations, ça, ce sont les peuples. Ici, il importe de distinguer, bien entendu, le fait qu'il y a autorité et qu'il y a les peuples étrangers. C'est ça que ça veut dire dans les nations. Dans les nations, ça ne veut pas dire une puissance qui se trouve à l'extérieur, mais ça veut dire être à l'intérieur d'une puissance où il y a des peuples et qui ont leur roi. Donc, dans les royaumes étrangers. Ce que j'essaie de montrer, c'est que le danger, généralement, vient du peuple ou d'un pouvoir intermédiaire. C'est complètement thématisé à la fois factuellement dans l'histoire et retravaillé dans la tradition. Ce qu'ils vont faire, c'est ils vont s'allier de la même manière qu'ils se sont alliés avec, donc sur le modèle de l'alliance royale, avec Dieu, ils vont s'allier avec le pouvoir suprême, et donc d'où les trois quarts du livre Persévérance, où j'ai essayé de montrer que c'est complètement travaillé à l'intérieur de la tradition. Le roi des rois. Roi des rois, c'est Dieu, c'est le roi et c'est le roi de tous les rois. Et le roi impérial vont entrer dans un rapport qui va permettre de contracter une alliance avec le roi des rois en tant qu'il hérite de la fonction, avec le roi territorial en tant qu'il hérite de la fonction du roi des rois, donc de Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est la structure qui va permettre aux Juifs de mener ce que Yerushalmi a appelé une alliance verticale. Ce processus, on l'a dans les... j'ai essayé de montrer que les Midrashim, beaucoup de Midrashim, ne cessent de justifier le fait que c'est bien le roi territorial qui, à qui échoua la fonction qui, en principe, est la fonction détenue exclusivement par Dieu, donc par le roi de tous les rois. On est ici, donc, dans dans la situation, on va dire, primordiale. Donc, le schéma, le triangle fonctionne de manière assez simple. Pour se prémunir de la menace de la populace, les Juifs s'allient avec le roi, fassent une transaction avec le roi, et de sorte que, donc la flèche va comme ça, empêche que le roi empêche la population ou la populace ou la foule de s'en prendre aux Juifs. D'où, bien entendu, l'importance cruciale dans ce schéma de la figure qu'on appelle le shtadlan, mais qui existait bien avant que le terme ne soit usité de manière... plutôt un terme qui naît dans l'Allemagne, la Pologne du XVIIe siècle, mais les historiens vont appeler le shtadlan rétrospectivement l'ensemble de ceux qui ont joué ce rôle. Ce rôle consiste tout simplement à intervenir auprès du roi du pays de résidence afin qu'il protège les Juifs contre la violence de la populace. Bon. Le schéma ici suffit parce que le but est d'arriver en bout de parcours et de voir les transformations. Je vais laisser ce triangle comme ça. Ça, c'est la situation, on peut dire, de l'Antiquité tardive au Moyen-Âge jusqu'au temps moderne. Ce schéma reste valide, avec tout un ensemble de transformations dans lesquelles il n'est pas utile d'entrer maintenant dans le détail. Mais, globalement, l'alliance verticale fonctionne. Et Yerushalmi lui-même dit, c'est pas que tout ça était un idéal, c'est tout simplement que c'était la manière dont les Juifs ont fait. C'était la politique pragmatique, la manière dont ils ont fait, à partir des ressources dont ils disposaient, à partir des textes qu'ils lisaient, et à partir de la situation structurelle dans laquelle ils étaient. Et cette situation structurelle, c'est tout simplement le fait d'être dispersés parmi et dans les nations. Alors, une question très importante sur laquelle je vais revenir. Un moment, Yerushalmi dit, Et pourquoi n'y avait pas-t-il d'alliance horizontale? Et Yerushalmi répond, parce que celle-là était celle qui fonctionnait, que l'hostilité venait généralement d'ici, que la possibilité d'une alliance horizontale ne se posait pas, et que donc l'habitude était de procéder de cette manière. Et que ça marchait tant bien que mal, avec des ratés. Mais pour finir, les Juifs ont réussi à traverser une si longue période, c'est que ça suffisait à toute fin pratique. On ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Quand ça ratait, naturellement, c'était un problème. Et ça ratait quelquefois. Ce que je veux dire, c'est que depuis le premier triangle ici jusque celui-là, on peut schématiser la situation politique des Juifs sans sortir du triangle. Non seulement sans sortir du triangle, mais c'est le triangle qui donne la clé des diagnostics de la condition politique des Juifs. La rupture, la grande rupture, parce que je dis que cette politique traditionnelle, elle va se continuer jusque dans le moment moderne. Et quand je veux dire moderne, pas dans le sens de l'histoire moderne, pas dans le sens du XVIe, XVIIe siècle, je veux dire moderne dans le sens de révolutionnaire. C'est la Révolution française et l'avènement un peu partout du principe de la souveraineté populaire qui va transformer, changer ce triangle, mais dont le triangle va toujours nous permettre de comprendre la situation des Juifs. Donc on va garder le triangle. Qu'est-ce que c'est qu'une transformation révolutionnaire où le peuple devient le souverain? On va résumer la transformation moderne sous cette simple phrase: le peuple est le souverain. Eh bien, le peuple est souverain, ça veut dire qu'en réalité, le pôle ici va monter dans le pouvoir. On est d'accord? Donc le peuple monte dans le pouvoir. Ça veut dire qu'il devient le souverain. Au roi ou à l'empereur se substitue le peuple. Donc le peuple, c'est lui qui détient la souveraineté. Dans ce processus de transformation, tout le monde est émancipé, c'est-à-dire le peuple, il peut devenir souverain dès lors que tout le monde devient citoyen. Le peuple ne peut exercer la souveraineté que s'il est un individu libre, doté de, disons, d'une compétence politique suffisante pour s'autogouverner. Et donc, c'est pas seulement le peuple qui monte. La définition du peuple lui-même, elle-même, se transforme. Donc, en réalité, c'est l'ensemble ici qui monte dans le pouvoir. En même temps que les Juifs s'émancipent, ils montent avec leurs concitoyens. Désormais, ils sont intégrés dans la nation. Ils font partie de la nation. Donc, eux aussi montent dans le pouvoir. Cette hypothèse, enfin, cette réalité, elle supposait, bien entendu, la disparition de la populace. C'est-à-dire le fait que l'hypothèse d'une populace agressive est disparue, et on comprend bien pourquoi elle a disparu. Elle a disparu parce que les individus sont éclairés, les individus sont émancipés et ils vont désormais s'autogouverner. Hein? C'est un peuple apte, comme selon la formule de Kant, un peuple apte à s'autogouverner. Qu'est-ce qui arrive dès lors à l'État, du point de vue des Juifs? Ici, dans la situation prémoderne, l'État est toujours l'État étranger. Dans la situation prémoderne, l'alliance verticale suppose une politique d'accommodement avec le roi territorial. Et cette politique d'accommodement est pré-émancipatoire, elle est donc pré-moderne, et l'État est un État étranger. Hein? On est dispersé parmi les nations ou dans les royaumes étrangers. Mais là, cette situation fait que l'État est aussi l'État des Juifs. Puisque les Juifs, ils sont souverains. Ils ne sont pas souverains tout seuls. Ils y sont souverains en tant qu'ils sont intégrés à la nation. Donc, on peut appeler cette configuration une situation dans laquelle c'est un État des Juifs aussi. Je le dis comme ça, c'est un peu une manière un peu infantile de conceptualiser, mais c'est aussi l'État des Juifs. L'État-nation moderne est aussi l'État des Juifs. À condition que effectivement, la population soit effectivement résorbée, à condition, bien entendu, que l'État-nation corresponde véritablement à l'idéal qu'il se fait de lui-même. Toute entorse, toute dégradation fait ressurgir le problème de l'alliance verticale. Tout dégradant, tout possible surgissement de la population, de la populace, fait surgir l'ancien schème qui est le schème de l'alliance verticale. Alors ici, on peut voir une première alliance différente. Est-ce que ici, on peut le qualifier d'alliance horizontale? Mais d'une certaine manière, oui. On peut la qualifier d'horizontale parce que les Juifs s'allient horizontalement avec tous les autres citoyens. Ils sont inclus dans la nouvelle définition du peuple, c'est-à-dire en français on dira nation, dans la nation moderne. Et dès lors, c'est un peu, disons, un peu audacieux, mais on peut dire que se met ici en place, pour la première fois, quelque chose qui est de l'ordre d'une alliance, mais cette fois-ci, non plus verticale, mais horizontale. Situation suivante, et bien entendu, c'est là que vient la crise. La crise, elle peut se décrire de la manière... On va prendre l'Allemagne, le cas de l'Allemagne nazie. Et le cas de l'Allemagne nazie a une très grande importance puisque c'est lui qui va mettre la politique de l'alliance à la fois verticale, c'est très important, horizontale et verticale en crise. Je vais vous dire pourquoi. C'est un cas qui est complètement imprévu. Ce cas, il est complètement imprévu. Le cas imprévu, c'est que ce soit la populace qui monte dans le pouvoir. Jusque-là, c'était le peuple qui montait dans le pouvoir. Donc, il était souverain. Et si, par hypothèse, complètement imprévu, la populace n'avait pas été complètement dissoute, Et si elle existait? Si la démocratie avait donné le sentiment qu'il n'y avait plus de populace, mais qu'il n'y avait plus qu'un peuple éclairé? C'est quand même un peu la question qu'on se pose aussi aujourd'hui. Si, donc, la populace avait été résorbée, cette éventualité était impossible. Or, la populace monte dans le pouvoir. Eh bien, elle y monte, naturellement, sans les Juifs. Et tu, montant dans le pouvoir, vous avez un souverain qui n'est plus le roi, qui n'est plus le peuple, vous avez un souverain, on pourrait dire populace, donc vous avez un souverain criminel. Donc, ce que fait le souverain criminel, c'est quelque chose qui était inconcevable, c'est que la populace soit criminelle. C'était parfaitement conçu, l'alliance verticale était faite pour parer à cette situation. Mais que la populace monte dans le pouvoir, et donc avec les moyens de l'État, avec le pouvoir d'État, se retourne contre les Juifs, ça c'est une situation imprévue. Ça, c'est une, cette situation-là, c'est la situation que les Juifs ont apprise tout le long de la lecture qu'ils ont faite de la Megillat Esther, que ça, c'était impossible. Et ce qui est impossible, dans le schéma conceptuel des Juifs, y compris dans la tradition, il se produit. C'est pour ça que j'ai dit crise interne aussi. Donc ça, c'est la situation qui est une situation de rupture, une deuxième rupture. La première, c'est État-nation. La deuxième, c'est État criminel. On est là dans une seconde rupture. Et cet événement, donc la Shoah, donc qui discrédite l'alliance verticale, la possibilité d'une alliance verticale, et qui discrédite la possibilité d'une alliance, disons, horizontale, matinée quand même d'alliance verticale, est également discréditée. Alors, donc on est passé d'une situation de l'État étranger à l'État des Juifs aussi, à l'État sans Juifs, c'est l'État qui détruit les Juifs, donc l'État sans Juifs. Et trois ans après, un État juif. Alors, la question qui se pose ici, c'est est-ce que la naissance de l'État d'Israël en 48 et le sens qu'il faut donner à cet État est l'effet d'une rupture complète avec le monde dans lequel nous vivions jusqu'alors, c'est-à-dire l'absence d'un État pour les Juifs. Bon, la condition de l'exil, c'est quand même une condition où on vit sans territoire et sans gouvernement. Et là, il y a territorialisation et étatisation. Donc ça vient prendre complètement, en principe, à rebrousse-poil, rentre complètement en contradiction avec la conception la plus admise, la plus conventionnelle de la condition politique de l'exil. Et Ce que j'ai essayé de montrer donc, dans le livre, je vais essayer de le déployer un tout petit peu, c'est la chose suivante. Cette possibilité, naturellement, elle n'était pas concevable à la fin du XIXe siècle, au moment de la naissance du sionisme. Mais c'est, il suffit de lire, de prendre les textes, les discours et les textes canoniques de Herzl, l'impulsion du sionisme politique d'Herzl était précisément que c'était possible. Il le dit en toutes lettres, hein, je veux vous rapporter au chapitre sur Herzl. Donc ce que fait Herzl, c'est d'une certaine manière de chercher à mettre les Juifs sous protection dans un État. Mais en faisant cela, c'est ça sa définition du sionisme. Herzl, elle est très simple, c'est un juriste. Hein. Il cherche les moyens de l'évacuation et de la mise sous protection des Juifs dans un État. Rien de plus. Il n'y a rien de... Ce que fait donc Herzl, c'est la fonction, en fait, qu'on a vu, la toute première fonction dans l'Alliance royale, elle revenait au roi des rois. Dans la première formulation de l'exil, jusque, disons, à la modernité politique, elle a été transférée, partagée avec le roi territorial, avec la souveraineté populaire, elle a été en quelque sorte distribuée comme la fonction de tous, y compris des Juifs qui sont montés dans l'État. Donc c'est un État aussi qui inclut la possibilité de l'autoprotection en tant que membre de la nation. Ici, la fonction n'a pas été remplie. Là, la fonction n'a pas été remplie. Ce que fait le sionisme de Herzl, complètement ignorant, Herzl est complètement ignorant de la tradition juive, il n'y a pas de... Mais c'est lié à la condition structurelle des Juifs. Il propose simplement de remplir la fonction autrement par un État. Naturellement, le sionisme n'est pas né simplement du problème des Juifs émancipés à l'ouest de l'Europe. Il est né également à l'est de l'Europe. Il n'est pas fatigué, le ravin, il devait partir. Donc vous avez une situation ouest de l'Europe, est de l'Europe. À l'ouest de l'Europe, c'est comme je vous l'ai dit, État-nation et émancipation des Juifs, État-nation, et pourtant la populace persiste. Donc Herzl, c'est le produit d'une déception d'une forme d'alliance horizontale. C'est comme ça qu'on peut retraduire en termes d'alliance la politique d'Herzl. À l'est de l'Europe, vous avez encore une situation pré-moderne. Et dans cette situation pré-moderne, les Juifs ont tenté des alliances horizontales. Typiquement, le Bund, typiquement, la participation à la révolution bolchevique. Tout un ensemble de déclinaisons. La thèse de du livre de l'état de l'exil, c'est que le sionisme et la dynamique du sionisme, elle tient tout simplement dans le fait qu'elle c'est la seule option qui a tiré des conclusions de l'échec des deux alliances. Ça, c'est, ça a été, on pourrait dire, l'efficacité, la plus grande efficacité du sionisme, c'est d'avoir tiré les conclusions et de les avoir aussi anticipées. Donc, des deux types d'alliances dans la modernité. Donc, je vais en terminer parce que je commence à... On pourra prendre la discussion, c'est dans la discussion. Que veut dire l'état de l'exil ? Donc en fait, tout ça, toute cette longue trajectoire, elle est faite pour essayer de situer le sens de l'État d'Israël. C'est ça le but de la reconstitution de la dynamique historique. Qu'est-ce que c'est ? Et cette question est brûlante aujourd'hui. On connaît le gouvernement qui est au pouvoir aujourd'hui, etc. Donc, la question est brûlante. La réponse que je propose dans le livre est très tranchée. Et la réponse est en réalité dans le titre. Donc la question que je me suis posée, c'est est-ce que l'État d'Israël, c'est la politique ? Elle fait-elle partie ? Est-elle une continuation ou est-elle un prolongement de la politique en exil, ou cet État est-il une manifestation de la politique de sortie de l'exil? Les deux possibilités sont là, ce sont deux potentialités, ce sont les deux faces de la politique juive. Et donc la réponse, elle est tranchée en quel sens? Elle est tranchée dans le sens où je dis que l'État d'Israël, c'est le prolongement de la politique en exil. Bon, là, il suffit de tirer les conclusions de ce que je vous ai présenté. Simplement, là, il faut reprendre les schémas. Et c'est une forme de la politique en exil qui ne se comprend qu'à travers la politique traditionnelle de l'alliance verticale. Alors c'est un peu audacieux, mais je vous explique comment on peut le comprendre. De nouveau, les Juifs, la populace, l'État ou le pouvoir suprême. Donc, une situation, prenons l'Europe, l'Europe d'aujourd'hui, l'Europe en particulier, l'Europe post-Shoah et post-naissance de l'État d'Israël. Où vient s'inscrire l'État d'Israël dans le triangle? Alors soit c'est une autre politique, donc c'est la politique de sortie de l'exil, alors il sera ici. C'est complètement délié de la situation à l'intérieur de laquelle s'est déroulée toute l'histoire juive. Ou bien, autre option, ici, le souverain, qui est quand même un souverain populaire. On vit tous dans l'Europe post-Shoah, c'est une Europe démocratique. Un souverain populaire. Mais c'est une Europe qui a rendu ceci possible. C'est-à-dire qui a rendu la possibilité que le souverain soit un souverain criminel est désormais une possibilité qui est actée. C'était impossible avant, ça s'est passé, donc c'est acté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si le souverain populaire est incapable d'hériter complètement de la fonction de protection, parce que c'est ça, c'est en fait la question, c'est qui hérite de la fonction de protection? Donc, avec qui établir l'alliance verticale? Mon hypothèse, c'est que c'est l'État d'Israël qui en hérite. En fait, l'État d'Israël en hérite sans changer le schéma à l'intérieur duquel il naît. En d'autres mots, l'État d'Israël hérite de la fonction de protection qui revenait à l'État étranger, au roi territorial, au roi étranger. Alors, si c'est vrai, moi je pense que c'est vrai, je pense que c'est comme ça qu'on écrit correctement l'histoire du sionisme. C'est pas juste que je voudrais que ce soit vrai. Je pense que c'est comme ça que l'État d'Israël est né. C'est comme ça, ça, c'est ça la dynamique du sionisme qui a conduit à la naissance de l'État d'Israël. Donc, conclusion, l'État d'Israël, puisqu'il est l'ajustement actuel, disons post-Shoah, il est l'ajustement actuel du schéma de l'alliance verticale et donc de la possibilité pour les Juifs de continuer ou de persévérer ou de continuer d'exister. D'où l'expression « état de l'exil ». Donc, avec cet état, on ne sort en aucun cas de la condition exilique. Simplement, un nouveau facteur est venu s'immiscer à l'intérieur de la politique en exil. Et ce nouveau facteur, c'est tout simplement parce que on pourrait dire de la manière suivante, les Juifs se sont donné l'État étranger. Avec l'État d'Israël, les Juifs se sont donné un État étranger, bien que ce soit un État, ils se sont donné un État pour les Juifs. D'où l'énorme importance dans la traduction aussi de l'essai d'Hertz, de l'essai programmatique. Ce n'est pas du tout l'essai programmatique, ce n'est pas du tout l'État juif. C'est Der Judenstaat qu'il faut traduire par, ou bien l'État des Juifs, mais on peut encore mieux le traduire, c'est encore plus explicite, l'État pour les Juifs. L'État pour les Juifs. Et dans le pour, les Juifs se concentrent sa fonction, la fonction de cet État, et la place qu'il prend dans les transformations de l'aventure des Juifs dans le stade qui est le nôtre aujourd'hui. Alors, à quoi conduit cette position ou cette manière de situer l'État d'Israël dans, alors, je ne sais pas comment le dire, dans l'histoire juive ou dans la, oui, on ne peut pas le dire autrement, disons, dans l'histoire structurelle des Juifs. Dans l'histoire structurelle des Juifs, telle est la manière dont il faut, ou je propose, de situer l'État d'Israël. Il prend une place vacante. Cette place vacante, elle est tout simplement laissée ouverte par la crise. C'est lui qui l'a remplie. Est-ce que ça veut dire qu'il la remplira toujours? Peut-être pas. Est-ce que ça veut dire que il y aura d'autres transformations? Probablement, très certainement que oui. Mais en tous les cas, cette position, cette manière de circonscrire la nature de cet État, elle n'est en aucun cas, l'idée selon laquelle la politique de sortie de l'exil a pris le pas sur la politique en exil. Donc là, c'est un argument absolument anti-messianique. Si ce que je dis est convaincant, à ce moment-là, on bloque toute possibilité d'inscrire l'État d'Israël dans l'autre face de la politique, qui est la politique messianique. Première conclusion, on pourrait dire immédiatement politique, d'une grande importance. Et une deuxième chose, c'est que naturellement l'État d'Israël est un État moderne, mais ce n'est pas un État-nation. Ce n'est pas un État-nation dans le sens traditionnel du terme, parce que si c'était un État-nation, il ne prendrait pas sa place ici. Il serait ici. Ce n'est pas un État-nation dans le sens qu'il n'y a pas superposition du peuple et de l'État à l'intérieur de l'État d'Israël. Le peuple est hors de l'État. Le peuple est hors de l'État empiriquement, et le peuple est hors de l'État conceptuellement, dès lors que c'est l'État, dès lors que l'exil suppose que le peuple soit toujours hors de l'État et hors des États. Donc à la fois, ce n'est pas un État-nation, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un État de droit, ça ne veut même pas dire que ce n'est pas une démocratie, mais ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose comme un peuple israélien. Il y a un État pour les Juifs, à l'intérieur duquel vivent deux nations, deux fragments de nations, une moitié de Juifs et l'autre moitié d'Arabes palestiniens. Ça, c'est la vérité. C'est qu'en fait, il y a deux fragments de nations qui vivent dans l'État pour les Juifs. Donc, ce qui induit une situation extrêmement complexe. Mais le voir comme ça, c'est aussi une manière de, en ayant conscience qu'il ne s'agit pas d'un État-nation, de assigner à l'État d'Israël sa fonction, qui est avant tout une fonction qui n'a pas du tout, qui est une fonction de protection pour les Juifs, et pas naturellement uniquement pour sa propre population, bien que ce soit d'une grande actualité. Mais cette position, elle n'est pas non plus, et bien entendu, vous l'aurez compris, parce qu'on en parle quelquefois dans ce séminaire, la position des Haredim, qui est multiple, la position des Haredim est multiple. Il n'est pas, bien entendu, un État impie. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas? Alors, pourquoi est-ce que, pour un certain nombre de Haredim, je parle en particulier les textes de Teitelbaum, le rabbin de Satmar. Il est impie Parce que, précisément, il est lu, l'État d'Israël est lu de manière erronée, comme faisant partie de la politique de la sortie de l'exil. S'il fait partie de la politique, s'il s'inscrit dans la politique de la sortie de l'exil, il est impie. L'erreur, c'est de le lire comme ça. Alors, il y a une partie des Haredim qui ne le lisent pas comme ça et qui font de l'État d'Israël l'État étranger comme un autre. Donc, en fait, l'État avec lequel on va continuer d'établir des alliances verticales, ça se traduit par le fait de vider les caisses de l'État pour les yeshivot, souvent. Donc là aussi, la position consiste à rejouer à l'intérieur de l'État d'Israël une alliance avec le pouvoir ou une transaction. Le problème, c'est les termes de cette transaction, je la laisse de côté. Mais, bien entendu, quand les Haredim voient dans l'État d'Israël un État étranger, ils captent quelque chose du schéma historique que je viens de tracer. Parce que plutôt, je serais d'accord avec les Haredim pour dire que ce n'est pas un État juif. Ce n'est pas un État juif. Autrement, on est du côté de la politique de la sortie de l'exil. Ce que les Haredim, en tous les cas, la majorité d'entre eux refusent. Et ce n'est pas un État-nation. Alors c'est ça qui rend l'énorme difficulté à lui assigner sa place. Bon, j'ai essayé de le faire en tentant d'être le plus fidèle possible, disons, aux coordonnées objectives, je pense aux coordonnées objectives qui permettent précisément d'essayer de resituer l'État d'Israël dans une continuité de la politique en exil, ce qui a naturellement des conséquences énormes du point de vue de l'autocompréhension que l'État aura de lui-même et de la politique qui y sera conduite. Et bien entendu, du rapport qu'il va continuer d'entretenir avec ceux qui lui ont donné naissance. Alors, qui a donné naissance à cet État ? A donné naissance à cet État, ceux qui se sont mobilisés pour transférer la fonction protectrice de la Halakha. En d'autres mots, les Juifs d'Europe. Ce sont eux qui ont opéré ce transfert à travers le mouvement sioniste, qui était un mouvement complexe avec tout un ensemble de versions, d'options, etc. Mais dont le cœur de l'activité a consisté à rendre ce transfert matériellement possible. Bien entendu, il peut arriver, donc je pense que les Juifs d'Europe sont les parents de cet État, l'État d'Israël sont les enfants, sont nos enfants, on pourrait dire. C'est-à-dire, ils sont nos enfants dans le sens où ils sont le résultat de ce que nous éprouvons dans notre expérience quotidienne et qui est toujours le problème du transfert de la fonction de protection. Donc, quand il se passe quelque chose, donc quand arrive le 7 octobre, puisque Alexandre voulait que je termine là-dessus, le 7 octobre, c'est le doute sur la réussite de cette opération de transfert. C'est ça qui a
en fait, qui a soulevé l'angoisse des Israéliens, des Juifs israéliens, mais pas seulement, et des Juifs à l'extérieur. C'est tout simplement le doute sur le fait que cette transaction a été effectuée convenablement, qu'elle est solide, durable et effective. Alors il arrive naturellement aux enfants de se rebeller contre leurs parents. C'est à quoi on assiste quand même maintenant avec la nouvelle coalition. Je ne sais pas si vous vous souvenez que, je termine là-dessus, cette coalition, quand elle était encore dans l'état de pourparlers, elle était à peine formée, deux éléments étaient saillants dans ce qu'elle voulait. Après ça, les choses se sont déroulées un peu autrement. Mais il y avait deux annonces qui sont particulièrement inquiétantes et qui est la négation de ceci. Donc c'est une révolte, mais c'est une révolte anti-sioniste, on pourrait dire, ce qui est en train d'agiter cette coalition dans un sens très très simple. Ils ont voulu d'une part réformer la loi du retour. Réformer la loi du retour dans le sens qui couperait l'accès à l'État d'Israël à, disons, aux Juifs empiriques, on va dire. Donc le restreindre autour des critères de la halakha. Mais c'est pas comme ça que le sionisme est né. Le sionisme est né pour, et l'État d'Israël est né, et la loi du retour dans sa première, dans sa version qui est encore en cours aujourd'hui, elle est faite pour que puisse entrer quiconque, je vais faire un raccourci, quiconque est persécuté, dit être persécuté parce qu'il est juif, y compris les parents, les enfants, les petits-enfants, l'épouse. Pas du tout les critères de la halakha qui régulent le fait de pouvoir être bénéficiaire de la loi du retour. Je vous signale que ni Herzl ni Nordau étaient mariés à des femmes juives. Donc ce n'est pas du tout le point. Le point, il est dans le transfert de la protection. Il n'a rien à voir avec la halakha. Il a à voir avec l'histoire empirique des juifs, tels qu'ils étaient dans la modernité, telles qu'étaient leurs conditions dans la modernité européenne en particulier, mais pas seulement. Eh bien, et la deuxième chose, donc d'un côté, en fait, d'un côté, c'était de couper avec les Juifs d'Europe, parce qu'une réforme de la loi du retour comme ça, c'est en fait couper avec les Juifs d'Europe et d'Amérique, qui sont des Juifs d'Europe aussi. Et la deuxième, rendre le transfert ici caduc. C'est-à-dire, en fait, autonomiser l'État d'Israël et le couper des Juifs du monde. C'est ça le résultat. Et la deuxième chose, c'est de transférer les territoires, un certain nombre de territoires occupés, à l'administration civile et non plus militaire, en vue d'une annexion proche ou programmée en tous les cas. Donc en fait, vous avez là deux éléments qui étaient quand même étrangers au sionisme, qui consistent à, d'une part, faire de juifs un désignateur rigide en les ramenant aux critères de la halakha. Je ne dis pas que dans d'autres sphères, ce n'est pas légitime. Il s'agit de l'histoire de l'Europe et de l'État d'Israël. Donc, de faire un désignateur rigide et donc de couper avec les juifs empiriques, on va dire, et d'autre part, de sacraliser la terre. Vous voyez bien que ça va ensemble. C'est-à-dire, les deux opérations, quand elles sont politiques, vont ensemble. C'est-à-dire sacraliser la terre, donc rendre le compromis impossible, etc. Ce qui, dans le statut de la terre, dans le mouvement sioniste, a toujours été un statut très relatif. Bon, Dans le livre, j'essaie de développer la chose. Donc, en fait, l'état de l'exil, c'est une manière de rappeler l'état d'Israël à son fondement, de le rappeler à son fondement, de le rappeler à ses origines historiques. Alors bon, est-ce qu'il faut que les gens soient fidèles à leurs origines? Une question qui m'est souvent posée. Ben, en France, les gens n'arrêtent pas de dire « c'est pas républicain ». On peut dire « d'accord, c'est pas républicain, mais si demain on veut être monarchiste, pourquoi on pourrait pas être monarchiste ?» Ben, c'est la tradition française d'être républicain. Donc je pense que là, il y a... Voilà, c'est une question là qui... Bon, j'ai été trop long, je vous remercie.
Merci. Donc, au fur et à mesure de votre triangle, je me suis posé une question.